Lors de la dernière prédication, j'ai essayé de lire dans la lettre de l'apôtre Paul à Tite cette affirmation forte qu'il pose comme étant la base de l'Évangile, c'est le salut de Dieu pour tous les humains. Alors si vous n'étiez pas là il y a 15 jours, ça ne fait rien, ce sont des épisodes qui vont ensemble mais que l'on peut entendre séparément. Et vous trouverez le texte de l'autre prédication sur Internet. Mais c'est pour vous dire qu'à la suite de cette prédication, donc où j'annonçais le salut pour tous les humains, plusieurs personnes ont soulevé cette objection majeure et très juste. Comment peut-on imaginer un paradis où l'on croiserait dans les vertes allées, pavées de pétales de roses et bordées de lys, bien sûr, de croiser tout ce qu'il y a eu de pire comme tyran ou comme individu ayant un comportement monstrueusement nuisible. Alors c'est une question pertinente à laquelle l'apôtre Paul a pensé et il répond dans ce même passage de sa lettre à Tite à cette question. Le salut n'est pas simplement une amnistie, c'est une transformation radicale. Paul l'explique. Dieu nous a sauvés par le bain de la régénération et du renouvellement de l'Esprit-Saint. Alors oui, la grâce de Dieu est un amour inconditionnel qui ne peut se résigner à perdre aucune de ses créatures. Nous irons donc tous au paradis, comme le dit la chanson. Cela passe par une double action de Dieu qui est au bénéfice de chacun. La régénération et le renouvellement opérés par Dieu lui-même, par son souffle de vie. Alors je vous propose de réentendre donc la partie de l'évangile, de la lettre de Paul à Tite au chapitre 3 qui parle de cette question. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois insensés, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs, passant notre temps dans la méchanceté et dans l'envie, odieux et nous détestant mutuellement. Bon, alors il parle de lui qui effectivement était persécuteur des chrétiens. Ensuite, il dit « Cependant, lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les humains, non pas parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, il nous a sauvés par le bain de la régénération et du renouvellement par l'Esprit-Saint, qu'il a répandu sur nous avec abondance en Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. » Alors Paul parle ici du renouvellement, cette palingénésie, comme on dit en philosophie, en haute philosophie, mais Jésus en parle aussi de cette palingénésie, de ce renouvellement. Il nous dit, par exemple, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 19, répondant à une question de l'apôtre Pierre. « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous gouvernerez les 12 tribus. » Et puis finalement, je vous propose d'entendre le psaume premier, 1000 ans avant donc l'Évangile, qui méditait sur ces bons soins que Dieu nous offre pour nous sauver. Heureux l'humain qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne jaunit jamais. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs se perd. Ô notre Dieu, permet que dans ces témoignages anciens que nous venons d'entendre, nous puissions recevoir chacune et chacun dans notre cœur ce que tu veux nous adresser aujourd'hui. Fais spécialement pour nous, sur mesure, pour nous faire vivre. Tu viens toi-même nous donner ton esprit, ton souffle de vie, de joie et de paix, de discernement et d'enthousiasme. Alors oui, éclaire-nous, Éternel notre Dieu. Amen. Alors le terme traduit par « régénération », c'est le mot grec « palingénésia », « palingénésie » donc en haute philosophie, de « paline » qui veut dire « à nouveau » et de « génésis », la genèse, donc la création. Il ne s'agit pas d'une unique seconde naissance, mais de notre création poursuivie sans cesse à nouveau, de jour en jour. C'est un processus continu, poursuivi sans cesse, pour chaque personne humaine. Et nous le sentons bien, effectivement, dans notre vie. Il nous arrive parfois le bonheur de sentir que nous avons comme franchi un palier, dans la vie toute simple ou parfois à l'occasion d'une difficulté. En tout cas, nous sentons à tout âge que nous évoluons, que nous mûrissons, peut-être que nous devenons plus sages aussi. C'est cela dont il est question. Jésus utilise souvent les images agricoles pour illustrer cela. Il en parle comme du royaume de Dieu. Alors le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'action de Dieu en nous pour nous sauver. Il en parle comme d'un semeur qui répand abondamment ses graines sans compter, comme des germes de bonté et de création. Ou bien comme une graine de moutarde qui devient un grand arbre capable de domestiquer des aspects sauvages de notre être. Et le psaume premier, nous l'avons entendu, renvoie lui à l'image d'un arbre, encore, qui est irrigué en profondeur, destiné à croître un peu chaque jour, même si c'est insensiblement, et puis à porter du fruit en sa saison. Le terme de régénération ne me semble donc pas bien rendre cette idée de nouveauté qu'il y a dans le mot grec, dans ce que dit Jésus, cette nouveauté permanente. Et là, dit l'expression de nouvelle naissance, non plus, car elle pourrait faire penser en une unique nouvelle étape dans notre vie. Il me semble donc plus juste de parler de création continuée. Cette nature inachevée de l'humain est pour nous à la fois une difficulté et une vraie bénédiction. Une difficulté, évidemment, car l'humain est inabouti, donc imparfait. Alors c'est un peu décevant, mais c'est une bénédiction parce que nous sommes libres de participer ainsi à notre propre genèse avec Dieu. Et cette création continuée nous fait connaître d'immenses bonheurs, celui de grandir, celui d'aimer plus et d'aimer mieux, celui d'avoir moins peur des autres et de la vie, et d'être parfois nous-mêmes source de bonnes nouveautés dans ce monde autour de nous. Mais bien sûr, en attendant, toute personne humaine est imparfaite, à la fois pécheresse et donc au bénéfice de la grâce de Dieu, de son pardon, mais aussi de ses bons soins, parce que l'amnistie ne suffit pas, notre imperfection demande donc des soins. Cette imperfection, elle pose quand même effectivement des problèmes concrets dans la vie de tous les jours. parce que cette imperfection produit de la souffrance et de la mort. C'est ce dont s'inquiétaient effectivement nos amis quant à honorer avec bienveillance l'existence de toutes sortes de personnes assez fâcheuses par leur comportement. Et puis, encore plus, pense-t-on, à accueillir ces méchants, ces grands méchants, dans le paradis. Alors, que fait Dieu ? Ben, comme dans un jardin, finalement, puisqu'on parle du paradis, il ne suffit pas de planter des bonnes graines, ce qu'il fait donc par sa palingénésie. Quand on plante des bonnes graines dans un jardin, je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'a pas tourné le dos que de mauvaises herbes se mettent à pousser joyeusement. Et puis, il y a aussi des branches mortes qui bloquent la montée de la sève. C'est pourquoi un bon jardinier, comme Dieu, a besoin d'une seconde opération de salut indispensable, en plus de la création continuée. Alors, si le terme de la palingénésie est un terme de la haute théologie empruntée par Jésus et Paul aux stoïciens, le terme de « renouvellement » s'est tiré, lui, du vocabulaire très courant de la vie de tous les jours. C'est le terme qui parle de la rénovation d'un bâtiment qui est un peu ancien, par exemple, ou la réparation d'un objet qui est cassé, qui est abîmé. C'est donc un travail d'artisan. Dieu est donc notre créateur continu, mais il est aussi notre réparateur d'humains. La création continuée, elle est purement positive, apportant un supplément d'être, de bonté et de vie. La réparation de l'humain, c'est plutôt comme un soin médical qui vise à enlever une tumeur. C'est ce qui est mis en image dans le psaume premier, qui aurait pu sembler être menaçant en première lecture. Mais non, il présente deux portraits, celui du juste et celui du méchant. Toute personne est à la fois, plus ou moins, en proportions diverses, l'un et l'autre, bien entendu. Le travail de réparation est comparé, par le psaume premier, à celui du vannage du blé. Sur l'aire de battage, souvent placé par exemple sur un col, parce qu'effectivement il y a un plein vent qui passe et qui est accéléré par le col, le vent emporte la paille pour ne laisser dans le panier que les bons grains qui pourront ensuite être moulus pour en faire du bon pain. Alors ce vent, ce souffle qui sert pour faire le tri, le vannage, c'est l'Esprit de Dieu, bien entendu. Alors, quand on regarde cette image de la paille et des grains, il est clair que cela dit que chaque personne est comme l'épi entier, à la fois paille et grain, méchanceté et bonté. On ne peut avoir l'un sans l'autre dans un épi. On ne pourrait pas avoir les grains qui flottent comme ça en l'air sans la paille pour le porter, c'est comme ça. Mais aussi l'être humain au cours de sa genèse. Par définition, il est encore imparfait, mais il y a aussi déjà quelque chose qui est de l'ordre de la perfection en lui. Et donc le jugement de Dieu, il ne vise pas à éliminer certaines personnes, mais à trier au sein de chaque personne pour garder précieusement la meilleure part de chacun, le grain, et supprimer son côté piquant, la paille. Et donc ce jugement de Dieu, c'est de l'amour, bien sûr. Comment serait-il autrement avec Dieu ? Parce que c'est ce que fait l'amour. Roméo, quand il regarde Juliette, l'ami, quand il regarde son ami, les parents, quand ils regardent leur enfant, ou les enfants regardent leurs parents ou leurs grands-parents, parce que les parents, c'est toujours un peu ennuyeux, bien sûr. Donc l'amour, il discerne, il valorise, il conserve ce qui est bon, ce qui est prometteur chez l'autre, même si c'est ce bien est caché sous toute une meule de paille. Paul témoigne lui-même de cette rénovation. Lui qui fut autrefois un furieux intégriste, persécutant les autres, il reconnaît. Nous étions autrefois insensés, rebelles, écarés, égarés, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs, passant notre temps dans la méchanceté et dans l'envie, odieux, nous détestant mutuellement. Mais l'Esprit a la soigné de cette méchanceté. Effectivement, dans une expérience mystique, dans une démarche qui avait peut-être commencé avant, de recherche du salut de Dieu, il y a pu y avoir un tri, une opération pour le sauver. Et l'Esprit l'a éloigné de cette méchanceté et il a conservé la beauté de l'enthousiasme de Paul qui est maintenant au service du bien. Et donc le jugement de Dieu est ainsi. C'est une purification de chaque personne, ce n'est pas une sélection de quelques-uns. Cette purification, c'est une image récurrente dans les évangiles. Comme la moisson suivie par le vannage du blé, ça apparaît plusieurs fois dans les évangiles de Jésus-Christ, mais là, elle était dans le psaume premier. On parle aussi de la vendange et du pressoir. Ça permet effectivement de ne pas mettre le cep de vigne entier dans notre bouteille. On commence par vendanger, puis ensuite on le met dans le pressoir pour garder la moindre goutte de bon jus et éliminer les rafles. On parle aussi d'un minerai passé au feu pour éliminer les scories et ne garder que l'or, l'argent, le platine, qui est à l'intérieur de nous, finalement. Alors, une lecture hâtive de la Bible peut se laisser abuser par ces images du juste et du méchant, avec comme conclusion de l'histoire que le méchant sera éliminé et jeté dans les flammes de la géhenne, de la décharge municipale, et avec le juste qui est gardé dans les verts pâturages du paradis. Mais en réalité, comme dans ce psaume premier, c'est le méchant en chacun qui est éliminé, et c'est le juste en chacun qui sera précieusement gardé par Dieu, par son amour puissant, bien sûr. Alors l'idée d'un concours divin où seuls les plus performants seraient sélectionnés pour la vie éternelle, c'est absurde. Même le meilleur d'entre nous a sa part de méchanceté qui reste à réparer même s'il avait été sélectionné. Mais surtout, aucun parent digne de ce nom n'abandonnerait un de ses enfants dans la forêt. C'est encore plus imaginable de la part de Dieu. Il nous garde tous. Il cherche notre croissance positive par la création continuée, injectant sans cesse un supplément d'âme à notre âme, et puis aussi par notre guérison, par la réparation. Par conséquent, oui, nous serons tous sauvés, mais après restauration, après élimination de toute notre méchanceté, de notre paille, de nos pépins, de nos scories. Alors Dieu sait ce qu'il restera d'un Adolf Hitler après une telle restauration. Mais ce ne sera plus l'épouvantable tyran. Ce sera peut-être quelque chose d'aussi mignon et minuscule qu'un nouveau-né qui évoluera enfin positivement. Mais peu importe, nous verrons bien pour ce qui est de la vie future. On n'est pas pressé. Pour l'instant, c'est ici que ça se passe. L'important, c'est de vivre aussi peu que ce soit ces deux immenses services en notre faveur que sont notre création continue et notre restauration. Dire que ce sont des fruits du travail de l'Esprit en nous, ça nous montre que ce sont effectivement des miracles que nous aurions bien eu du mal à obtenir par notre propre sagesse, parce qu'effectivement, ce n'est pas facile d'arranger notre caractère. Alors, cette théologie du salut peut nous inspirer dans notre façon de vivre à la suite de ce que Dieu fait pour nous. Alors, ça sera un regard bienveillant sur l'autre, mais sans naïveté, effectivement. Ça sera discerner le meilleur en chacun, le valorisant, l'aidant à se développer. Cette théologie de la grâce de Dieu, de sa création et de sa restauration, cette théologie, elle torpille les jugements binaires qui classent les gens et les pays entre les gentils et les méchants. Ça brise toute forme d'intégrisme. Jésus et Paul ont été inspirés donc par cette bienveillance de Dieu jusque dans leur façon de s'exprimer ici. En effet, pour dire ce salut de Dieu, ils utilisent le terme de palingénésie. Ils auraient pu citer du Ésaïe, du Jérémie ou du Zacharie pour dire la façon dont Dieu, que la façon que Dieu a d'apporter du neuf dans notre vie et dans notre monde. Mais ils utilisent ce terme de palingénésie complètement étranger à la Bible hébraïque et directement issu de la philosophie stoïcienne. Cela montre l'attitude de Jésus et de Paul, et je trouve ça fort touchant. Ils entendent la culture de la personne qu'ils désirent accompagner, et ils partent de là sans jugement négatif, alors que le stoïcisme, c'est quand même autre chose comme philosophie que la philosophie biblique. Ils partent de là pour proposer à l'autre un cheminement. Ils évangélisent ces notions philosophiques. Et je trouve que c'est le reflet de la tendresse de Dieu et de sa patience. Et nous avons donc le droit de tâtonner dans notre façon de prier et d'agir, de prendre de ci et de là, et de faire notre miel de ce qui nous a touchés. Dieu nous accompagnera toujours pour le meilleur. Amen.